toutes et tous de la musique dans la tête. Parce que ces musiques ont bercé des moments de notre existence. Parce que parfois, ces musiques ont changé nos vies. Parce que ces musiques étaient présentes sur des disques. Parce que ces disques ont une histoire. Un disque, une histoire, c'est votre rendez-vous musical du jeudi soir sur Radio Terre de Mix, de 19h à 20h. Parce que chaque disque a une histoire, et ces histoires font les disques.
Bonjour à tous, aujourd'hui un disque, une histoire, vous va vous parler de l'album Osez Joséphine d'un certain Alain Bashung. Bonjour Max, comment vas-tu ?
Bonjour Bruno, je vais très bien.
Alors aujourd'hui, tu as choisi un artiste français, on a changé de registre, mais on reste dans le rock et tu vas nous le prouver avec Alain Bashung, un de tes artistes, je crois, phare.
Oui, c'est un de mes chanteurs français préférés et un très grand artiste de musique rock, on le sait trop peu. Et j'aimerais vous faire découvrir ça à travers ce disque de 1991, Osez Joséphine. Là, on vous fait entendre, peut-être que tu vas monter le son, That's Alright Mama, une chanson de Elvis Presley, reprise tout seul à la guitare par Alain Bashung. Cette chanson n'est pas sur le disque, mais c'est déjà pour vous mettre en appétit. Sa voix, parce que vous allez voir que tout au long du disque, sa voix change. C'est assez troublant d'ailleurs. Oui. C'est assez troublant de l'entendre comme ça, parce qu'on ne sait pas qui chante. Est-ce que tu avais reconnu, toi ?
Bah, quand on connaît un petit peu Bashung, on peut se dire, tiens, on dirait Bashung. Mais c'est vrai que ça surprend. À la première écoute, on ne se dit pas que... non. Déjà, quand même, l'anglais est quand même bien maîtrisé. Et pour le coup, c'est super fluide. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant. Quand on connaît un peu le personnage Bashung, on connaît un petit peu son parcours, on se dit... Il vient de là finalement, et c'est là tout l'intérêt du truc.
Ah oui, alors il vient de là. Alors, Alain Bashung, en plus, il est né dans les années 40, hein, donc il fait partie de ces rockers nés dans les années 40, il est né en 47. Et il a commencé sa carrière sur les scènes françaises dans les années 60. Je crois qu'en 67, il est déjà en première partie au Palais des Sports des Kings, avec un groupe de rock à lui. Il a tout fait, hein, ce garçon, il a vraiment arpenté les scènes durant en fait, des années et des années. Il a sorti des disques 45 tours qui n'ont pas marché. Il a participé à un opéra rock français en 74 qui s'appelait La Révolution Française. Moi, j'ai toujours le double disque à la maison. C'est quelque chose, vous savez, chou en avant, ouais. Par Saint-Denis, par Saint-Jean. Avec fait, les oui. Martin Circus, etc.
Non, c'était rock'n'roll.
Il a galéré très très longtemps, mais c'est un véritable rocker. Et puis c'est un immense musicien, vous allez le voir, et puis c'est un compositeur. Et puis il va, je veux dire, exploser en 79 avec Gabi, quoi. Bon. Une chanson qui lui fait vendre 1,5 million de disques, 45 tours.
Ce qui est pas rien quand même.
Ce qui est pas rien, mais ça sort de nulle part. Voilà, mais lorsque ça sort, il a déjà 32 ans, quoi. Hein, là, c'est plus.
Il a beaucoup, on va dire, ramé au départ, parce qu'il y a quand même pas mal de créations, pas mal aussi de rencontres. Il y a des rencontres, tu parlais tout à l'heure de 1789, la Révolution, et puis il y avait aussi des connexions avec Balawan, avec Gainsbourg aussi, qui vont se faire des rencontres à des moments. Et puis il sort à 32 ans finalement.
Bah oui, il sort à 32 ans, en plus il sort sur une chanson, quoi. Hein, il sort sur une chanson, mais qui va faire le tour des radios. Et donc il va se faire connaître comme ça, il va se faire connaître comme ça sur les plateaux télé, etc. Et à partir de là, il va suivre sa voie. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui suit sa voie artistique. Et à partir de 79, il va sortir 6 disques qui sont tous extrêmement intéressants, notamment en 82, un disque qui sort avec Serge Gainsbourg qui s'appelle Play Blecher. Très très beau disque, mais complètement atypique, troublant, novateur. Et puis, donc, on va arriver à 1991, quoi, parce que ce disque est fait en 1991 et il va être fait sur Memphis. C'est un disque à la fois deux reprises. Donc là, c'est pour ça qu'on vous a fait entendre une reprise. On va vous en faire entendre une autre pour montrer un autre style de reprise d'Alain Bashung.
On va dire son côté chanson française, pour le coup.
Là, pour le coup, là, son côté chanson française. Mais puisqu'on va vous faire entendre une reprise des mots bleus de Christophe, mais qu'il transcende complètement, qu'il se réapproprie, dont il fait quelque chose à lui qui n'appartient qu'à lui. On a l'impression que c'est lui qui a écrit cette chanson, quoi. Et sur ce disque, donc, il y a à la fois des créations et des reprises du rock anglais et américain. Hein, voilà. Donc c'est ce disque qui va sortir en 1991. Il va faire un tabac à l'époque à sa sortie. Il va se vendre à 500 000 exemplaires, ce qui est beaucoup en France. Hein, voilà.
Bah, sur un album, ouais, surtout. Ouais.
Hein, sur un album, là, c'est beaucoup. Mais ce disque va devenir un étalon du rock en France. C'est-à-dire que comment on appelle ça, le palmarès Rolling Stone, vous savez, de la revue Rolling Stone, là, sur les 100 meilleurs disques de rock français, ben, il est premier.
Ah oui.
Ouais, c'est le premier. Et je partage, moi. Je partage vraiment ce point de vue. Moi, lorsque j'ai découvert ce disque, je l'ai écouté, réécouté, réécouté en boucle. Et je l'écoute toujours avec un infini plaisir. Donc voilà, là, je voulais qu'on traite d'un artiste français. On en fera d'autres, hein, je veux dire.
Bien sûr.
Et puis, il n'y a pas qu'uniquement du rock. Enfin, je rappelle que cette émission Un disque, une histoire n'est pas réservée au rock. Il se trouve que, pour l'instant, on a traité beaucoup de musique rock, mais on fait un appel à tous les candidats qui veulent venir présenter un disque.
Bien évidemment.
Ils peuvent venir présenter un disque de Tino Rossi s'ils le veulent. Il n'y aura aucun problème. Ici, on est sur une égale dignité des répertoires.
Tout à fait.
Hein, et on y tient, à Radio Terre de Mix. Mais donc aujourd'hui, on va vous présenter Alain Bashung. Alors, juste avant de commencer à vous faire entendre des morceaux du disque, on va vous faire entendre une reprise des mots bleus.
Bah oui.
Parce que là, vous allez voir une autre reprise avec une autre voix d'Alain Bashung.
C'est un caméléon, comme on dit, de la musique. Mais
et du chant.
Et du chant. Ouais, tout à fait.
Il est 6 heures, clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne. Ah,
C'est vraiment superbe, hein.
Énorme. Très touchante, hein. Très touchante. Moi, je préfère cette version-là que celle de Christophe. C'est bon, c'est... Voilà, c'est mon ressenti. Mais c'est vrai que voilà, il y a une âme avec ce personnage.
Ouais, on redécouvre la chanson autrement, complètement autrement. De façon un peu fracassée, quoi.
Ouais, c'est un écorché vif. On en parlait hors antenne. C'est vrai que c'est un écorché vif, le personnage. Et il y a une tristesse en lui, mais avec un petit côté désenchanté. Enfin, c'est assez particulier. Enfin, moi, je le perçois comme ça, en tout cas.
Et de l'humour. Et de l'humour. Parce que sa version-là, elle peut à la fois ou complètement déchirer le cœur, ou alors faire rire. C'est-à-dire, on passe de l'un à l'autre en permanence avec lui dans ses chansons. Il y a énormément d'humour, aussi. Mais il y a aussi une grande détresse, quoi. Alors, cet album, il va aller le faire à Memphis. Voilà. Là, il est connu, il est un peu reconnu. Bon, donc, il va négocier chez Barclay le fait que, voilà, on lui paye le studio de ses rêves. Et ce gars, il vient vraiment du rock, quoi. Alors, il va aller à Memphis. Il va aller enregistrer avec le son de Memphis, avec Tom Harding, en ingénieur du son.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Il va avoir tous les musiciens du studio de Memphis. Voilà, donc là, c'est vraiment des musiciens rock blues, hein, voire un peu country. Parce qu'aux États-Unis, voilà, hein, je veux dire que... Vous voyez, le musicien français, c'est un musicien qui, à la fois, va enregistrer au studio... avec un artiste de variété qui va aller taper le bœuf en jazz, qui va faire un peu de rock, et le samedi qui va aller faire le paloche. Voilà, hein, c'est ça le musicien français, parce qu'il fait comme il peut, hein. On lui en veut pas. Mais aux États-Unis, non, donc là c'est impossible. Aux États-Unis, vous êtes ou dans le rock, ou dans le blues, ou dans la country, ou dans le jazz, et vous restez là-dedans, quoi. Bon. Donc là, il va avoir les musiciens qu'il veut à Memphis. De très très grands musiciens, je vous les cite pas parce qu'en plus on les connaît pas, ce sont des musiciens de studio, mais vous allez voir un peu le son qu'il a, les musiciens qu'il a et ce que ça donne, quoi. Alors le disque, il commence pas sur Osée Joséphine, mais c'est le nom de l'album, donc nous on a décidé de commencer avec ça.
Voilà, parce qu'on a envie de faire comme ça.
Cette chanson en plus là, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'il compose Bachung. Alors Bachung, il écrit les musiques. Il faut savoir, c'est un compositeur, mais il s'est toujours fait aider pour les paroles. Donc là, il écrit les paroles avec Jean Fauque, mais ça part toujours d'une inspiration. Alors, d'une inspiration sur les mots, sur la musicalité des mots. Donc, il ne faut pas toujours chercher à comprendre
les paroles. Il n'y a pas forcément de sens dans ce qui est dit.
Il n'y a pas forcément de sens dans ce qui est dit. Alors là, par exemple, lorsqu'on lui a demandé là, pourquoi est-ce qu'il avait appelé ce disque « Osée Joséphine », c'est parce qu'il avait une amie qui s'appelait Joséphine Drahic, qui était une chanteuse, comédienne, etc. Et qui était très timide. Et un jour, il est venu à l'esprit, il lui a dit « Si j'osais, Joséphine ».
D'accord.
Voilà.
Tout simplement. Bon, bah,
tout okay. Simplement. « Si j'osais, Joséphine ». Voilà, c'est le jeu de mots. Et donc, il est parti là-dessus, quoi. Donc, il a une méthode d'écriture aussi au cut-up. Là, vous savez, on prend des mots, on les jette en l'air, on les reprend, puis on voit un peu là ce que ça donne. Donc, il ne faut pas toujours aller chercher des significations dans ce qu'il dit, quoi. Il y a des significations à étage, mais il y a surtout une musicalité dans les mots, quoi. C'est ça qu'il recherche.
C'est assez poétique, finalement.
Très poétique. Très, très poétique. Donc, ça peut être plein de détresse, mais ça peut être aussi extrêmement drôle. Osée Joséphine, c'est vraiment très drôle.
Et je trouve aussi que, pour le coup, quand tu nous expliques que voilà, l'album a été composé, écrit, enfin, en tout cas, réalisé par rapport à Memphis, dans le son, on va l'entendre tout de suite avec Osée Joséphine.
Ah oui.
Le premier accord, déjà, il plaque le truc, là, le bottleneck. Enfin, bref, je sais pas. On va pas rentrer trop dans les détails, on va vous le faire écouter. Je pense que c'est plus simple. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, en entier.
Allez, c'est parti.
Des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux.
Donc là, c'est encore une autre voix, vous entendez, hein.
Livrés à eux, ils font des petits, ils font
regarde des dauphines. On se croirait dans les années 60.
Je suis le roi de ce drap, à qui sourit la vie.
Puis écoutez la petite guitare en cocotte qui est derrière là.
Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir.
Attention, il va faire hennir une guitare.
Juste voilà. Faire hennir les chevaux du plaisir.
Voilà.
Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez le sourire. Usez l'usurier.
Usez l'usurier, c'est génial. Soyez ma muse.
Et que les durs que les moments doux, durs que les moments doux. Et que les doux. Osez, osez Joséphine.
Les violons qui rentrent.
Osez, Joséphine.
Grosse orchestration quand même.
Ouais, ils ont fait les violons ensuite à Paris.
Rien ne justifie. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Moi, je trouve ça magnifique.
Énorme morceau, énorme. Bah, effectivement, je pense qu'après Gabi, je pense que c'est quand même celui-là derrière qui est sur cet album, en tout cas, je pense qu'il ressort. En tout cas, c'est sur celui-ci qu'il a fait la com. En tout cas, c'est l'album un peu single de cet album, de mémoire, de ce que je me souviens. Et y a de quoi, parce que c'est vrai que l'orchestration et puis la montée en puissance du morceau aussi, c'est très intéressant parce que certains instruments sont rentrés au fur et à mesure. Voilà, ça démarre tranquillou, puis on rajoute une petite guitare cocotte, puis on rajoute les violons qui arrivent tranquillement, enfin voilà. Donc rien à dire sur ce morceau, et puis bah oui, là on retrouve toutes les racines blues et rock que tu définis dans Un disque, une histoire, voilà, spécial Bashung.
Alors on va poursuivre par une reprise, parce qu'il y a beaucoup de reprises sur ce disque, il y a 4 reprises, donc je me souviens
plus.
Est-ce
que c'est un mal français ça, les reprises?
Ah non, c'est pas un mal français. Moi je pense que là, c'est pareil que le classique, enfin je veux dire qu'on revisite Mozart, on revisite Beethoven, on les réinterprète à chaque fois, Vivaldi, enfin vous voyez, donc je vois pas pourquoi on le ferait dans le classique, on le ferait aussi dans le jazz, on reprend du Charlie Parker, du Coltrane, etc., que l'on revisite. Donc lorsqu'il y a un standard dans le rock, une chanson, voilà, un morceau, une musique, une mélodie qui a fait frémir une génération, je comprends très bien que les artistes les revisitent. Mais lui, il revisite. C'est-à-dire que c'est une réinterprétation qui n'appartient qu'à lui. Voilà, donc là, c'est pour ça, vous allez voir que les réinterprétations qu'on va vous faire entendre, il en fait quelque chose à lui, quoi. Voilà. Et donc là, c'est pas un mal français, c'est que tous les musiciens rock reprennent. Je veux dire, Patti Smith, les Stones, McCartney, les Who, Iggy Pop, tout le monde a repris. Et Bowie, à chaque disque de David Bowie, vous aviez des reprises qui sont des véritables hommages aux artistes. Et là, il rend hommage au rock'n'roll dans ce disque, voilà. Qui a vraiment fait sa jeunesse, qui a changé sa vie, qui a fait de lui un musicien. Donc il rend hommage à ça, et il rend hommage à ça en revisitant et en se rendant à Memphis pour avoir le son, enfin voilà. Donc non, c'est pas un mal français, vraiment pas.
Très bien, justement, c'est une petite provoque naturelle. On va enchaîner justement avec une version originale qui est présente, voilà, que Bashung a décidé de réinterpréter justement sur l'album Osez Joséphine. Est-ce que tu peux nous en parler de cette reprise?
Laquelle tu veux qu'on mette en premier?
Bon, je pense que We're Alright. Qu'est-ce que t'en penses?
We're Alright, toi, donc We're Alright, c'est une chanson de Buddy Holly, Hein, une grande chanson de Buddy Holly, le grand rocker des années 50. Mais il s'est inspiré aussi de la reprise de Blindfaith, qu'on va vous faire entendre un peu là, parce que Blindfaith, donc un super groupe de 1969, créé avec Eric Clapton à la guitare, Stevie Winwood à l'orgue, Capaldi à la basse et Ginger Baker à la batterie quand même, donc là vous m'excuserez du peu. Donc ils ont fait un disque, mais quel disque, hein, ils ont fait un disque, une tournée, puis ils se sont arrêtés là. Bon.
Je vous explique pas la tournée.
Voilà. Donc on va vous faire entendre un peu la reprise de Blindfaith, et après ça on va vous faire entendre la reprise de Alain Bachung. Bachung. Au chant. Là, on va vous faire entendre maintenant celle de Bachung. Lui, il l'a fait entre celle-ci et celle de Buddy Holly. Vous allez voir, la sienne, elle est plus rock. J'adore le son. Vraiment. Super rythmique. Hein. Quelle voix. Vous entendez la voix?
Alors, c'est le King, on dirait.
Ah,
c'est fou. Là, quand je l'ai écouté tout à l'heure, j'ai pas reconnu. Ça s'est fait, c'est rentré dedans. On est dans les années 90 hein, quand même, faut le préciser.
91.
91 tout précisément. Mais c'est vrai que dans les années 90, on est quand même sur l'arrivée d'un événement un petit peu le grunge et compagnie qui commence à sortir. Un son rock un peu US, un peu usine, et puis le côté un peu grunge du son. Et puis lui, il arrive avec cet album-là, un peu, j'ai envie de dire, une ambiance un peu spatiale, justement, cette ambiance Memphis. Il arrive à l'imposer sur tous ses morceaux. Et avec une touche, je trouve, moi, du côté chanson française qui vient derrière, c'est-à-dire quand on entend cette reprise, on retrouve une ambiance des sons des années 60-70 en mode un peu yéyé en France, avec la petite cloche par exemple, le ting, les petites choses comme ça, les petites pointes, et puis toujours la guitare slide derrière de Memphis. Et ce mélange là du coup vous apporte une reprise qui n'a rien à voir avec l'original, enfin si, voilà comment moi je le ressens.
Oui, il revisite ça et il en fait quelque chose à lui. Voilà, on a l'impression que c'est une chanson qu'il a créée lui, qu'il a inventée lui, qu'il chante lui. Mais alors, vous avez vu quelle voix ?
Mais tout à fait, oui.
Hein, c'est clair. C'est un caméléon, de toute façon. Là, vous allez voir, là, tout au long des chansons qu'on va vous faire entendre, je ne sais pas comment il fait pour changer sa voix comme ça. Il a des registres de voix extrêmement divers. Voilà, en fonction des paroles qu'il chante. Il peut avoir une voix... un peu alcoolisé, on va dire, un peu avec une logorée, voilà.
Titi parisien.
Il peut avoir une voix en fait très douce, très rock, très crooner.
Très crooner.
Hein, voilà. Donc,
et d'ailleurs, quand il l'utilise, ça, voilà, sur l'un des morceaux qu'on vous a programmé, c'est assez flagrant quand il utilise justement bien ses graves et c'est ce côté un peu arraché. On va pas vous divulguer tout maintenant, mais voilà, je vous le redirai à ce moment-là. On va continuer parce que il est fan de, bien sûr, de blues et compagnie, puis aussi de folk, on va le dire. Un certain Bob Dylan avec une reprise intéressante que Bachung a réinterprété chez Belong to Me. Mais pourquoi tu as souhaité nous faire écouter la version de Dylan ?
Dylan.
Dylan.
C'est Dylan. Dylan is Dylan. Dylan is Dylan. Bon, maintenant, en plus, il est prix Nobel maintenant de littérature. Ah donc,
bah, c'est
bon,
bien,
voilà.
Au moins une bonne reconnaissance.
Donc là, c'est sur l'album Bringing It All Back Home. Voilà, donc on vous fait entendre la version de Dylan et on va vous faire entendre la version de Alain Bachung revisité. Vous allez voir, c'est
comme
encore bien. Une revisite qui est superbe.
She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud.
Bon, tout le monde connaît cette chanson là.
Bah ouais, mais ça fait toujours du bien. Moi je l'écoute encore.
You will start out standing proud to steal her anything.
Là, je suis sur mon rocking chair et je bois un café.
But you will wind it.
Allez, Ghibli Young Demi version Bachung, ça donne ça.
She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back.
C'est lui qui réarrange la chanson.
Vraiment.
C'est un grand arrangeur, hein.
You will start outstanding, proud to steal her anything she sees. You will start outstanding, proud to steal her innocence she sees. But you'll be wound up picking through a keyhole, down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can touch her at all.
Il joue l'harmonica aussi, hein. Écoutez ça.
Sparkless before she speaks.
Disque, une histoire avec Alain Bashung et Osée Joséphine. On vient de s'écouter chez Bibliolectomie, énorme morceau, super morceau. Voilà, on s'était un petit peu évadé. J'espère que vous aussi. On va entrer bientôt dans les, voilà, dans les 15 dernières minutes de l'émission, à peu près dans les grandes notes, bien qu'on va encore discuter un petit peu. Bashung, on dirait que cet album-là, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est l'album de la maturité pour lui.
Moi, je crois que c'est l'album du retour aux sources. C'est l'album du retour à ce qu'il est fondamentalement, de là où il vient. Parce qu'à un moment donné, il a été pris... Il n'a jamais été pris par la variété commerciale. Jamais, je veux dire. Il a suivi sa route. Mais dans les années 80, on est dans cette espèce d'époque un peu froide, de la New Wave, etc. Donc...
Il a quand même cherché à rentrer dans ce monde-là au départ. Il y a quand même, voilà, il y a toute une série de clichés où justement il essaye de rentrer dans les normes au départ, quand même. Par rapport à cette variété, à ce petit clan-là qui...
Il a essayé d'y rentrer dans les années 60 et 70. Parce qu'à l'époque, voilà, là, il fallait rentrer au hit parade, etc. Il n'a pas réussi. Bon, voilà. Il fait Gabi, qui est pas, enfin, qui est un morceau inattendu, puis qui va plaire à tout le monde, qui va se vendre à 1,5 million d'exemplaires. Parce qu'ensuite, durant les années 80, il vend en fait très peu de disques. Il fait des concerts qui sont superbes. Moi, j'ai assisté à un concert, c'était extraordinaire. D'ailleurs, les concerts étaient vraiment très, très rock. Lui, il vient d'un orchestre de rock'n'roll, quoi, voilà. Il vient du rock'n'roll. Donc, à un moment donné, il se pose et il retrouve là ses racines. Et ce qui est génial, c'est qu'en retrouvant ses racines, en retrouvant qui il est fondamentalement, eh bien, le disque va se vendre, quoi, voilà.
Mais est-ce que tu serais pas en train de nous faire un petit truc, quand même? Parce que j'ai l'impression que depuis qu'on traite un disque, une histoire, c'est la sixième du nom, d'ailleurs, hein, je le précise, au passage, chaque fois, tu choisis un album clé, on va dire, dans l'évolution des carrières des artistes en soi. Et à chaque fois, sur un truc qui est le retour aux sources. Est-ce qu'il y a un message subliminal derrière tout ça?
Ah, je sais pas. Je peux pas te dire. Il se trouve que oui, là, ce sont en fait. Enfin, non. Là, c'est pas uniquement des. Enfin, lorsqu'on a fait, en fait, McCartney, les Stones, et celui-là, c'est un retour aux sources, mais le disque des Who, là, c'est pas du tout un retour aux sources.
Ouais, effectivement.
Beatles, encore moins. Disons que là, il planait haut à ce moment-là.
C'est vrai.
Non. Bien souvent, à un moment donné, lorsque on revient aux sources, on dit qui on est, quoi. On se montre à nu, on montre son squelette. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. Lorsqu'on enlève tout, il reste quoi? Ben lui, il reste ça. Et il reste quelque chose d'assez épuré, mais qui vient du rock, quoi, fondamentalement. Et il se trouve que moi, j'ai un squelette semblable. Donc voilà, lorsque je sens un artiste qui revient à ça, je comprends là ce qu'il veut me dire. En tout cas, à moi, donc. Voilà.
C'est ta sensibilité.
C'est ma sensibilité, mais je pense que c'est des disques qui ont touché des millions de gens, quoi.
Et là, le titre qui arrive, je pense qu'il vous a touché forcément. Vous l'avez forcément entendu parce qu'il a été réédité, réenregistré quelques temps au moment de la période, voilà, de sa disparition, parce qu'il est décédé il n'y a pas très très longtemps. Ce morceau-là, il l'avait réinterprété notamment aux Victoires de la Musique, et ça a été un moment assez, assez particulier. Moi, en tout cas, il m'émeut beaucoup. J'espère que chez vous, ça va être pareil. On va se le laisser en entier, mais tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport au titre Madame Rêve, à ce titre-là.
Ben voilà, disons que là, on se laisse prendre par le propos, le rêve, etc. On ne sait pas où ça nous amène. Au début, ça a l'air très érotique, cette histoire. Mais ça va, on ne sait pas où, quoi. Je veux dire, et je pense qu'il se laisse porter par les mots. Je ne sais même pas si lui avait un sens, une signification aux chansons qu'il faisait. Il y en a un certain nombre, oui. Il y a un certain nombre de chansons où il y a une signification. Mais là, à un moment donné, c'est toujours une espèce de poésie surréaliste où il se laisse prendre par les mots, la beauté des mots et la musicalité des mots. Là, il y a une mélodie qui est magnifique, des arrangements qui sont superbes. D'ailleurs, jamais su. Est-ce que ça avait été fait par un orchestre classique ou alors au synthétiseur ? On s'en fout. Vraiment, écoutons ça en entier.
Voilà, juste pour le plaisir et puis pour se rappeler aussi.
Ça, ça ressemble quand même à des vrais violons en pizzicato. À des violoncelles d'ailleurs aussi. On entend des contrebasses. Les violons, je sais pas s'ils les ont fait au synthétiseur, je sais pas. Et la voix qui arrive, incroyable.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel.
Ça c'est beau, hein. Une fusée qui l'épingle au ciel, magnifique.
Oh ciel.
Cette chanson n'a pas été enregistrée à Memphis, elle a été enregistrée à Paris.
On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin.
On est loin. On est loin des amours de loin. Ouais.
Madame rêve. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel. Oh ciel.
Effectivement. Effectivement, à la réécoute, à mon avis, il y a des passages où effectivement il y a des synthés, mais peut-être pas forcément au début, tu vois. Je suis partagé, il y a même des soufflants à des moments. Voilà, grande interrogation, tiens. Si ça vous intéresse de nous informer là-dessus, si vous êtes informé, nous ça nous intéresse de savoir un petit peu l'orchestration de ce morceau. Voilà, vous avez vu un petit peu la montée en puissance et l'ambiance vraiment. Enfin voilà, moi j'adore. Quand on rentre dans ce couloir, là, on pourrait marcher, on pourrait s'imaginer dans les décors de Alice au Pays des Merveilles en train de marcher un peu.
C'est quand même un Alice au Pays des Merveilles très érotique, hein.
Ouais, mais bon.
Très très érotique.
La version Tim Burton est plutôt intéressante. Énorme, bien sûr. Et puis là, je vous le dis comme ça au passage, moi je regardais le diagramme du morceau avec les fréquences et quand les basses arrivent. Ça ressort là comme ça, c'est juste énorme, l'orchestration énorme, le texte énorme et l'interprétation bien évidemment énorme. On va terminer cette émission par voilà, par deux petits morceaux et puis un summum pour toi comme d'habitude, parce que là on vous a mis à peu près les trois coups de cœur de Max et puis on termine bien évidemment par le coup de cœur de toi qui t'a parlé. On va faire écouter bien sûr une version, enfin la version originale en tout cas du morceau, de là où elle est inspirée, puis lui ce qu'il en a fait bien évidemment, et puis bah, malheureusement on devra s'arrêter là aujourd'hui.
Alors, voilà, on arrive sur le péplum.
Le péplum, il y a toujours un péplum.
Il y a un péplum. Eh oui. Le péplum, c'est Night It White. Satin, une chanson très connue des Moody Blues, vous savez, très très connue, notamment avec l'utilisation du mellotron. C'était une des premières utilisations du mellotron, vous savez, cet instrument qui est l'ancêtre du synthétiseur, qui faisait des violons d'ailleurs, un son incroyable. Hein. Donc on va vous faire entendre le début, enfin juste une partie pour pouvoir vous rappeler de la chanson qui avait été faite par les Moody Blues. Et puis après vous avez alors là l'interprétation de Bashung tout seul avec une guitare. Donc là je l'imagine dans les studios de Memphis là. J'imagine la chaleur, le silence se fait. Il est tout seul avec la guitare et il chante. Et là c'est incroyable. Quelle voix, quel groove, quel feeling. Mais il me déchire les tripes en plus lorsqu'il chante ça. Alors c'est une chanson complètement surréaliste et barrée, hein, Night It White Satin, mais là, lorsqu'il en fait, enfin, ce qu'il en fait lui, on a l'impression qu'il porte la détresse du monde, quoi, cet homme, lorsqu'il chante ça. Il y a quand même une grande tristesse en lui. Hein,
moi, oui, c'est vrai. Ça, c'est au-delà d'être un écorché vif sans plus, parce qu'il n'a jamais non plus été... On va dire, il n'a jamais fait de grandes de frasques ou de grandes envolées ou quoi que ce soit, mais il a toujours eu quand même une mine triste, mine de rien. Il n'était pas quelqu'un qui était tout le temps en train de sourire. Enfin, moi, voilà, si on prend les pochettes d'albums ou les éléments, il est rarement en train de sourire. Et puis, je pense que voilà, il n'a pas une vie non plus si évidente que ça. La maladie qu'il a rattrapée quand même assez tôt. Enfin, bon, voilà, c'est un personnage atypique. Et puis, ses ambiances, ses atmosphères, ses envolées, on va dire lyrique, bah c'est tout le personnage quoi. Je pense que c'était aussi quelqu'un d'étriqué quoi.
Oui, là qui pouvait aussi être vraiment très drôle, hein. Il y a des textes très très drôles et il pouvait être drôle sur scène, bon, bien qu'il n'était pas énormément, enfin, il était plutôt sombre, mais en tout cas voilà, ce morceau là on va vous le laisser jusqu'au bout. On va d'abord vous faire entendre le début de la version des Moody Blues.
Voilà, vous en souvenez tous bien sûr. Interro et grit.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send.
Vous entendez le mellotron là?
Donc
vous voyez là, c'était une chanson quand même qui passait sur les radios, qui était c'était une chanson variété, rock, populaire, bon. C'était un slow, quoi. C'était le super slow.
Mais c'est quand même déjà s'attaquer à quelque chose, moi je dis. Hein? Parce qu'il se mesurait pas à n'importe qui, le Pépère, quand même. Parce que là, aller chercher quand même les ambiances de ça, juste tout seul avec une guitare, faut y aller, quand même.
Alors oui, alors vous allez voir. Et donc, il va aller chercher les ambiances de ça tout seul avec une guitare. Mais là, ce qu'il fait...
C'est énorme.
C'est extraordinaire. Et on va se quitter là-dessus. Mais...
Ouais. Malheureusement, c'est triste. On se retrouvera pour un prochain épisode, le mois prochain, bien évidemment.
On vous laisse savourer ça, en se redisant que c'est pour ça que le rock est grand.
Bien évidemment.
Au mois prochain. Écoutez ça.
Night in white satin, never reaching the end. Letters written, never meaning to send. Beauty I always miss, with his eyes before. Just what the truth is, I can't see anymore. 'Cause I love you. I can't see anymore.